L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Avant d'attaquer l'épisode d'aujourd'hui, j'ai remarqué que de plus en plus de marques me demandent comment tirer parti de cette mode des podcasts, mais aussi de cette attention disponible. Je me suis associé avec un studio d'enregistrement pour créer Plink.studio, P-L-I-N-K.studio, un studio de création de podcasts dédié aux marques. On vous accompagne du positionnement stratégique à la création, à la production, mais aussi à la communication autour de votre podcast. Donc rendez-vous sur Plink.studio, P-L-I-N-K.studio. Mais pour le moment, commençons un nouvel épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour, je suis Grégory Pouy et je vous présente Vlan. Vlan, ce sont des partages d'expériences concrets, sans bullshit, pour mieux comprendre comment le marketing a évolué. Bienvenue sur Vlan et n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour à tous, je suis avec Frédéric Montagnon, qui est multi-entrepreneur, on peut dire ça. T'as fait plein de boîtes, t'as créé Overblog, enfin je connais même pas toutes les boîtes que t'as créées au final.
Tu veux que je refasse un petit...
Vas-y,
petite rétrospective.
Vas-y, fais une rétrospective rapidement.
Parce que comme tu fais du son, en fait, ma première passion, c'était la musique.
Ouais.
Et j'avais monté une boîte en 2001, 2002, je ne sais plus, pour faire des tables de mixage qui se branchaient sur un ordinateur en USB et qui pilotaient des logiciels pour faire de la musique, de l'enregistrement, du mixage. Ça s'appelait Codanova.
Ok.
Voilà.
Et après ?
Et après, on a... En fait, pour vendre ces tables de mixage qu'on n'arrivait pas à vendre en magasin, évidemment... on avait décidé de faire un site de vente en ligne et on n'avait pas réalisé qu'un site, ça ne suffisait pas. C'est comme une vitrine au milieu du désert. Et donc, on avait commencé à apprendre à faire du référencement sur les moteurs de recherche, etc. etc. Jusqu'au moment où on s'est dit, en fait, la meilleure façon de faire, c'est de créer notre propre forum de discussion, communauté, sur ce sujet qui est comment on fait de la musique à la maison avec son matériel. Et là, ça a commencé à bien fonctionner. Parce qu'à partir du moment où il y avait du contenu d'utilisateur, des questions pertinentes, etc., on avait du trafic. Et donc, ça nous rapportait plein de trafic. Ce qui fait qu'on vendait en quelques jours tout notre stock. Puis ensuite, on n'avait plus rien à vendre. Donc, il fallait attendre quelques mois le temps de reproduire. Jusqu'au moment où on s'est rendu compte que dans cet intervalle de temps, on pouvait vendre de la publicité sur notre propre site. Et on a vite compris qu'on gagnait plus d'argent à vendre de la pub qu'à faire nos propres produits. Et ça nous donnait l'idée de faire un peu plus. Et c'est là que j'ai rencontré un troisième associé avec qui on a fait Overblog.
D'accord.
Etc.
Etc. Et nous, on s'est rencontrés, je pense, à Paris, mais après, on s'est retrouvés à New York. Et en fait, tu es considéré, enfin, je peux considérer, je sais pas si c'est le bon terme, mais comme l'un des gros experts de la blockchain en France, ou français, et des crypto-monnaies nécessairement. Est-ce qu'on peut expliquer rapidement ce que c'est que le concept de la blockchain, parce que je pense que c'est pas très clair pour plein de gens finalement.
Ouais, alors ça peut être expliqué de plein de façons différentes. On peut peut-être prendre
une manière simple.
On peut peut-être prendre une manière simple. On dit toujours, c'est quand même un podcast un peu technique
que tu fais un petit peu.
On dit toujours que le logiciel est en train de manger le monde petit à petit. Et effectivement, Internet, ça a permis de révolutionner totalement la manière dont on se connecte les uns aux autres, la manière dont on discute, communique. Mais il y a une chose que ça n'a pas du tout touché jusqu'à présent, et c'est l'objet de la blockchain, c'est la notion de transaction et la notion de contrat.
Okay.
Et donc, quand tu fais une transaction avec quelqu'un, ou quand ça implique un contrat, finalement, le fait de payer quelque chose, d'avoir un service en retour, etc., ça passe toujours par un document que tu signes implicitement ou de manière spécifique, toutes ces étapes-là, en fait, elles n'ont jamais été touchées par le logiciel. La blockchain, quelque part, c'est la capacité, grâce à du logiciel, à transformer cette transaction et ce contrat de manière numérique et à le rendre extrêmement fluide. Donc une blockchain, en fait, c'est basiquement un endroit où tu vas stocker des transactions, des informations avec la garantie d'une date et d'un contenu. Donc tu peux enregistrer dans une blockchain un contrat qu'on va signer ensemble, qui va stipuler ce qu'on se doit mutuellement et qui est assorti éventuellement d'un paiement. Et on ne va pas pouvoir revenir dessus puisque ça aura été écrit et ce ne sera pas falsifiable dans le temps. Personne ne pourra le modifier, personne ne pourra a posteriori, tu vois, le supprimer ou rajouter quelque chose. Donc c'est ça une blockchain, c'est une espèce de, une sorte de, on appelle ça un ledger, hein, une base de données dans laquelle on empile des successions de transactions et d'informations qui ne vont plus jamais pouvoir être touchées. Et la perspective qu'on a dans le monde de tous les jours, c'est de pouvoir utiliser des blockchains pour toutes les interactions qu'on a et qui impliquent des transactions et des contrats.
Donc, par exemple,
Si on prend quelque chose de très, très physique et de dans la vie de tous les jours, quand tu vas acheter dans un magasin quelque chose, donc je vais acheter une montre dans un magasin, je vais avoir d'un côté mon ticket de caisse, qui n'est pas grand-chose de plus qu'un bout de papier qui va probablement s'effacer dans le temps parce qu'il est thermo-imprimé. Ça, c'est pour le paiement. De l'autre côté, je vais avoir un bout de papier qui est une garantie, qu'en plus, je ne vais pas signer et que la marque n'aura pas signé, donc aura une valeur...
Et que tu vas sans doute perdre.
Et qu'en plus, je vais perdre, qui a une valeur assez discutable. J'aurai éventuellement un certificat d'authenticité qui a vocation à changer dans le temps au fur et à mesure des années, donc en plus que je ne saurais même pas authentifier moi-même. Et tout ça, tu vois, c'est une transaction que tu as avec un contrat qui te lie à une marque et qui crée la relation entre toi et la marque.
Mais t'as le produit physique quand même.
Mais t'as le produit physique. Et en fait, tu n'as que le produit physique quand tu réfléchis, parce que le reste, ça a peu de valeur, finalement. On peut imaginer une application dans laquelle le paiement, la garantie, le contrat, la description du produit et son certificat soient tous numérisés et enfermés dans une blockchain, de sorte que tu vas te retrouver à avoir un élément digital, une représentation digitale d'un objet qui va reprendre cette transaction, qui va... auquel tu vas pouvoir rattacher éventuellement des contenus et qui va créer un lien réel, cette fois-ci numérique, entre toi et la marque. Et ce qui fait que cette même représentation numérique d'un objet, elle va pouvoir se balader de main en main au fur et à mesure que tu vas donner cet objet, que tu vas le revendre, peu importe. Donc c'est là, sur un cas d'usage de ce type-là, c'est une rupture très forte parce que ça va permettre des tas de fonctionnalités. Un exemple, dans le milieu de la pharmacie, simplement, on n'est pas trop touché en Europe, mais il y a énormément de contrefaçons partout dans le monde. Donc, quand tu achètes un médicament, savoir si le médicament est un vrai ou pas, ça peut être vital. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas de moyen de pouvoir vérifier autrement qu'avoir un petit hologramme, un petit quelque chose sur un emballage. Dans le futur, tu auras la possibilité de vérifier que ce médicament-là, qui porte un numéro, il aura bien été créé par une marque, il aura bien été produit à telle date, que sa date de péremption, ce sera bien telle date, et surtout, que le seul endroit où tu peux le trouver physiquement à un instant donné, c'est bien la pharmacie dans laquelle tu te rends.
D'accord. Parce que j'allais dire, parce que le numéro, je peux en inventer un ou en copier un, et puis le créer.
Alors, c'est,
puis...
tout, voilà, c'est tout le principe d'une blockchain, c'est que, alors suivant comment elle est construite, mais tu peux donner de la transparence sur, justement, un élément parmi d'autres. Donc, tu pourrais vérifier en tant qu'utilisateur que ce numéro-là n'existe bien qu'une fois. D'ailleurs, c'est un gros, gros problème. C'est même probablement le plus gros problème de la contrefaçon. C'est que tu peux trouver des objets contrefaits avec des numéros de série ou des numéros de lot qui ne sont pas légitimes, qui ont été dupliqués.
Exactement. Et puis d'ailleurs, parce que tout à l'heure, je te disais, quand tu parlais de la montre, je te dis, tu as le produit. Mais pour en parler avec plusieurs horlogers, parfois, les horlogers eux-mêmes n'arrivent pas à définir si le produit est vrai ou faux, en fait. Donc, même avec le produit physique, parfois, c'est compliqué, en fait. Et que ce soit pour un sac ou... Enfin, si on parle des produits, en l'occurrence, de luxe, puisque c'est ça dont tu parlais. En fait, c'est quand même extrêmement complexe. C'est très nouveau comme concept, en fait.
C'est complexe à comprendre parce que c'est difficile de se mettre... d'arriver à trouver des bonnes images pour se représenter ce que c'est. Alors, je vais essayer de t'en donner une.
Ouais.
En fait, quand tu regardes la manière dont on décrivait Internet il y a maintenant plus de 20 ans, hein, c'était dans les années 92, 93, 94, les gens qui étaient des spécialistes répondaient en disant « Mais c'est révolutionnaire, parce que jusqu'à présent, on envoyait de l'information en continu sur des canaux. Et là, en fait, on prend l'information, on la découpe en morceaux, on la met dans des paquets IP, on leur donne une adresse, et ils se débrouillent comme ils veulent, ils arrivent tous au bon endroit, on les recompose, et l'information est là. » Bon, et alors là, on t'explique ça, t'as rien compris.
Ouais, c'est clair.
Tu te projettes pas dans l'idée qu'en fait, c'est une nouvelle façon de diffuser du média, que c'est une nouvelle façon de faire du commerce, et que ça va complètement changer nos vies, quoi. Pour la blockchain, c'est exactement pareil. Il faut essayer de se projeter un petit peu dans ce que ça peut donner. Alors, je te donne, comme on fait du marketing, c'est un podcast marketing, je te donne un exemple. On reprend cette idée d'avoir une représentation d'un objet réel en virtuel. C'est-à-dire, si tout à coup, tu avais un certificat de propriété, d'authenticité pour chaque objet dans une blockchain et de manière numérique. Mais en fait, en ayant ça, tu crées un lien un peu intelligent entre la marque qui a créé le produit et le consommateur, mais pas nécessairement le client, celui qui possède l'objet à un moment donné. Donc, t'imagines si tu es une marque de luxe et que demain, tu te mets à utiliser ces certificats et cette manière de créer une représentation de chaque objet de manière digitale, mais en fait, tu vas créer un lien qui va suivre de main en main les gens qui vont se repasser un objet et qui te permet, toi, marque, de continuer à avoir une communication directe, non pas avec des gens que tu vas cibler sur des réseaux publicitaires ou sur des emails dont tu ne sais pas trop. Voilà. Tu peux te dire, j'ai un message à envoyer ou j'ai une information à donner à des gens qui ont tel modèle de montre parce que, je ne sais pas, il y a une modification, il y a une nouveauté, peu importe. Tu pourras cibler ces gens-là en particulier.
Donc,
tu peux complètement recréer une manière complètement différente de te connecter aux individus. Alors, dommage pour la publicité, parce que voilà. Mais je pense que c'est de nature vraiment à créer une manière plus intelligente, plus directe, plus efficace d'avoir un lien entre la marque et le propriétaire d'un objet.
Cool. Mais on pourrait imaginer ça aussi, par exemple, pour l'achat d'une maison, j'imagine, parce que tu passes chez un notaire, donc il y a un contrat qui est signé. Quand tu fais, il y a plein de...
Ça, c'est des marchés qui sont déjà pas mal régulés. Donc, il y a probablement moins à créer. Ça va probablement, dans le temps, être de plus en plus vrai, l'utilisation de blockchain dans ce cas-là. Mais ça, c'est des marchés qui sont déjà organisés, qui sont très locaux.
D'accord.
Dans le cas que je donnais, c'est peut-être plus pertinent encore sur des marchés qui ont vocation à être des marchés globalisés, où un objet peut se retrouver quelque part dans le monde. Bon, une maison, a priori, tu la prends pas de France pour la mettre ailleurs, tu vois. Et donc, le cadastre et tous les registres, en fait, qui existent, ils sont très liés quand même à un pays parce que c'est de l'immobilier. Mais pour tout ce qui est mobilier, pour le coup, il y a une valeur qui est très forte.
D'accord. Mais alors, moi, je pensais que la blockchain, il y avait quand même un mouvement un peu anarchiste qui était « je vais me passer des institutions ». Enfin, en tout cas, c'est un peu l'idée que j'avais. C'est-à-dire que oui, effectivement, les notaires, ça existe. Mais il y a beaucoup d'impôts. Enfin, quand tu achètes une maison, tu sais bien qu'il y a 10% de valeur qui partent au notaire, dont 98% sont des impôts au final. Et tu te dis, finalement, ce contrat, je pourrais le mettre digitalisé, me passer du notaire et peut-être me passer des impôts aussi, quoi.
Ouais, il y a une partie des gens qui ont épousé le principe notamment de Bitcoin au départ, qui sont effectivement des libertariens assez convaincu
avancé
et un peu extrémiste. je sais pas s'il faut rentrer là-dedans parce que ça je trouve que ça brouille un peu le message. Il y a beaucoup de gens effectivement qui discutent de la capacité à une monnaie virtuelle de venir remplacer une vraie monnaie. Moi je suis pas sûr que j'y crois beaucoup. En tout cas c'est pas pour ça que je me suis intéressé il y a quelques années à tout cet écosystème. Moi je m'y suis intéressé vraiment pour la valeur d'usage et la valeur technique et la technologie sous-jacente. Maintenant, c'est vrai que on est arrivé à un moment où le marché, là, au moment où on se parle, doit valoir à peu près, je sais pas, 600 milliards de dollars. Donc, l'ensemble de crypto-monnaies valent 600 milliards de dollars, ce qui est gigantesque. Et quelque part, oui, toute cette valeur, elle circule énormément. Et puis, d'une certaine manière, le Bitcoin et les autres monnaies deviennent quelque part de plus en plus quand même des monnaies qui portent de la valeur et qui permettent de réaliser des transactions de la même façon qu'on peut faire des transactions avec des euros, des dollars. Maintenant, je pense que si on veut vraiment que l'écosystème se développe intelligemment et correctement, il faut de la régulation. Et c'est une régulation qui est plutôt positive, parce que sinon, on va réouvrir la porte vers tous les travers qu'on a connus dans le monde de la finance jusqu'à présent. Et les problématiques de blanchiment, de financement du terrorisme, etc., qui sont brandies systématiquement pour cette communauté, risquent de devenir une réalité, même si aujourd'hui, je pense que c'est assez marginal, ça risque de redevenir une réalité si ce n'est pas un tout petit peu régulé.
Et alors du coup, toi, pour toi, tu as fait un pont que je comprends moi, mais je pense que tout le monde ne comprend pas nécessairement, entre blockchain, Bitcoin et monnaie virtuelle. Alors déjà, peut-être qu'il faut expliquer le rapport entre... Alors déjà, le Bitcoin, qui est finalement la monnaie la plus connue, parce que c'est celle qui a généré plus de presse et puis qui est la plus valorisée, c'est une crypto-monnaie. Donc, donc voilà, il y en a plusieurs. Mais ensuite, c'est quoi le rapport entre les crypto-monnaies et la blockchain?
Alors c'est là que ça se complique, parce que le Bitcoin est une blockchain au départ qui n'a pour usage et comme fonctionnalité uniquement de transmettre de la valeur. Donc, c'est une blockchain qui est à vocation à n'être qu'une monnaie. Alors que la plupart des blockchains ont d'autres fonctionnalités et ont des applications qui sont en dehors du monde du paiement et du monde de la monnaie. Donc, c'est là où c'est compliqué. Alors, pour comprendre maintenant le lien entre une crypto-monnaie et une blockchain, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dessine une blockchain qui a vocation à être publique, on essaye d'imaginer la meilleure façon de créer un système qui est complètement autonome et qui est complètement indépendant du monde. Parce que dans la mission qu'on se fixe à créer des blockchains, des applications autour de ces blockchains, on se dit qu'il faut qu'on ait une sorte de base de données, un système, une application qui soit incorruptible. Incorruptible dans le sens où on ne peut pas venir le modifier dans le temps, on ne peut pas venir influencer son fonctionnement. Donc, il y a des solutions logicielles pures qui permettent de le faire. Mais il faut, en plus d'avoir un logiciel, il faut une infrastructure. Et c'est ça qui a fait tomber l'ensemble du monde de l'Internet dans les mains des GAFA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as des gens comme Facebook, Google, un peu Amazon et un peu Apple aussi, qui ont trouvé des modèles économiques et principalement basé sur de la publicité, pour pouvoir payer à l'échelle de l'infrastructure et offrir des services de manière gratuite. Donc, c'est merveilleux sur le papier. Le problème, c'est qu'à partir du moment où cette infrastructure est possédée et maîtrisée par une entreprise en particulier, elle peut faire un peu ce qu'elle veut avec. Et puis, quelques années plus tard, mettons 20 ans plus tard, en 2018, on se dit, zut, Facebook a mes données, je ne peux rien faire parce qu'il décide de tout. Oui, parce qu'il a tout payé, voilà, quelque part. Donc là, dans tout cet écosystème qui est celui des crypto-monnaies, de la blockchain, etc., on essaye d'imaginer comment est-ce qu'on peut être complètement indépendant d'entreprises et de plateformes qui voudraient se réapproprier ces protocoles et ces applications. Et la bonne manière de faire, et ce qui a été trouvé, qui à mon avis est durable et introduit une rupture fondamentale dans le système, c'est que le logiciel est lié à son infrastructure au travers d'une crypto-monnaie.
D'accord.
Alors, ça devient un petit peu compliqué, mais l'idée, c'est tu veux redévelopper une application de chat comme un WhatsApp ou autre, en faisant en sorte qu'à aucun moment il y ait un serveur central ou une entreprise qui capture l'ensemble des messages et toute la data qui est liée aux connexions de ses utilisateurs. Tu peux recréer effectivement un applicatif, mais il va lui falloir de l'infrastructure pour exister et pour fonctionner. Eh bien, si le logiciel lui-même est capable de réaliser des transactions pour payer son infrastructure, à ce moment-là, tu l'as rendue un peu indépendante. C'est ça, en fait, la crypto-monnaie. Elle est là, en fait, pour permettre, non pas à des hommes au départ, mais à des machines, de pouvoir communiquer entre elles et se repasser de la valeur.
Parce qu'effectivement, le rapport... Enfin, les crypto-monnaies, j'ai rarement vu depuis le lancement d'Internet, et bon, moi, j'étais encore jeune au lancement d'Internet, malgré tout, un sujet aussi polarisé, c'est-à-dire que il y a vraiment des gens qui vous disent non mais les crypto-monnaies c'est n'importe quoi, j'y crois pas, ou je crois dans la blockchain mais je crois pas dans les crypto-monnaies, le jour où on pourra acheter son pain avec des crypto-monnaies, j'y croirai, etc. Alors qu'en fait c'est pas le but, c'est ça en fait ce que t'expliques. Tu peux pas ne pas croire dans la blockchain, tu peux pas ne croire dans la blockchain et ne pas croire dans les cryptos parce que
c'est quand même très lié et ensuite. Moi, je résumerais un peu les choses en disant que c'est la monnaie des machines, c'est pas la monnaie des hommes. Alors, bien sûr, on a envie de spéculer dessus et parier sur des applications du futur et parier sur des choses qui vont venir. Donc, c'est effectivement quand on achète du Bitcoin ou de l'Ether ou peu importe, on est en train de parier sur l'idée que l'usage va se développer et va augmenter sur une crypto-monnaie et donc sur une application bien particulière. Et ça répond à une loi d'offre et de demande très bien classique. Voilà. Mais après, est-ce qu'il faut croire dans la crypto-monnaie? C'est, en fait, on n'est pas en train de se dire que les crypto-monnaies, enfin, moi, en tout cas, je ne suis pas en train de me dire qu'elles vont remplacer les monnaies actuelles. C'est pas ce challenge-là. Et je suis même pas en train de dire qu'il faut investir maintenant parce que ça va prendre de la valeur. Je dis juste que le modèle de la crypto-monnaie, ça solutionne énormément de choses dans le monde de l'information qu'on connaît. Et en particulier, les problématiques de vie privée, de transparence, de confiance qui sont posées par les grosses plateformes centralisées peuvent être résolues au travers de l'utilisation de blockchain et avec l'usage de crypto-monnaies dans le futur.
Alors, tu peux prendre des exemples. Si on prend les monnaies les plus connues, peut-être pas le Bitcoin, mais l'Ethereum, c'est quoi son usage?
Alors, Bitcoin, c'est pas simple à comprendre. Ethereum, ça l'est encore plus parce que...
c'est pas le bon exemple.
Parce que si tu veux schématiser vraiment... c'est une plateforme de développement pour développeurs. Donc, en fait, c'est une plateforme, c'est une blockchain qui te permet de créer... il ne faut pas que ce soit des gens trop techniques qui m'écoutent parce que sinon, ils vont me hurler dessus.
Mais qui
te permet, en fait, de créer d'autres crypto-monnaies et d'autres blockchains sans avoir à te préoccuper de tout l'aspect très technique de celui de déployer une infrastructure, de faire du mining, etc. Donc, c'est un framework de développement.
D'accord. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu connais bien, que tu peux expliquer l'usage, par exemple? Enfin, je ne sais pas.
Il y a beaucoup de choses. Alors, il y a des...
Non, mais deux, trois.
En fait, non, mais je vais plutôt te les mettre en catégorie, ça sera plus intéressant. Ouais. Donc, tu as des choses qui sont vraiment des crypto-monnaies d'infrastructure. Donc, Ethereum, c'en est une parce que c'est une plateforme, finalement, qui te permet de construire des applicatifs ou des crypto-monnaies au-dessus. Et puis, petit à petit... on en vient de plus en plus à créer soit des crypto-monnaies qui ont pour vocation à permettre aux différentes blockchains et crypto-monnaies de communiquer les unes entre les autres. Cosmos, par exemple, ou Polkadot. Tu vois, vite, on est perdu. Ensuite, tu as d'autres plateformes, enfin, tu as d'autres qui cherchent à créer des plateformes qui permettent à ces crypto-monnaies de s'échanger facilement. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut apporter beaucoup de fluidité dans ce marché si on veut que ça fonctionne. Et puis, petit à petit, tu vas avoir des choses qui se construisent de manière superposée avec des crypto-monnaies qui permettent de plus en plus de faire de l'applicatif. Alors là, dans les choses dont on parle beaucoup en ce moment, il y a par exemple Telegram, qui est l'application l'échadrie, cryptée, sécurisée, tout ce qu'on veut, qui est en train de faire son ICO.
Ouais, parce que Telegram, c'est pas structuré sur la blockchain.
Alors, pour l'instant, non.
Alors, Telegram, juste pour information, parce que tout le monde connaît peut-être pas, c'est un WhatsApp, un équivalent de WhatsApp. C'est une messagerie qui a été montée par un Russe et qui est privatisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de données qui sont partagées et elles ne sont pas centralisées non plus, je crois.
Alors, en fait, c'est difficile à vérifier, mais on va dire que sur la théorie, quand on utilise WhatsApp ou Messenger, à chaque fois qu'on échange, qu'on allume même l'application, il y a une petite requête qui part chez Facebook. Alors après, qu'est-ce que devient cette information?
On ne sait pas précisément.
On le sait un peu quand même.
On sait un petit peu. Et
on n'est pas que deux à correspondre, en fait.
Non.
Voilà.
Mais on ne veut pas faire peur aux gens.
Sur Telegram, en fait, on crée un canal de communication qui est crypté. Ouais. Donc, il y a quand même un peu plus de certitude sur le fait qu'il n'y ait que la personne qui est en face qui reçoit le message. Et là, ils sont en train de faire une levée de fonds en crypto-monnaie, pour s'attaquer un peu plus sérieusement au monde des réseaux sociaux et étendre énormément le principe qu'ils avaient développé pour en faire quelque chose de beaucoup plus fort. Bon, voilà. Donc, tu commences à avoir des applications de ce type-là. On citait tout à l'heure, effectivement, la capacité à pouvoir digitaliser des certificats de propriété et d'authenticité. Et on va avoir globalement, dans tout le monde transactionnel, de plus en plus d'applications. Mais... ça a mis du temps, en fait. Ça a mis du temps, l'écosystème a mis du temps à s'organiser pour partir d'une première expérience qui est Bitcoin, qui a quasiment 10 ans maintenant, à un moment où un développeur puisse s'approprier cette technologie et l'intégrer dans un applicatif ou en faire une application. Et il aurait fallu effectivement 10 ans. Il aura fallu aussi attendre que de l'argent arrive sur ce marché. C'est maintenant que ça se passe. Voilà.
D'accord. Donc, l'idée, c'est pas de se dire qu'il faut absolument investir, on ne sait pas ce que ça va donner. C'est une question.
Je donne vraiment pas de conseils. Après, moi, j'ai plein de copains qui m'ont un peu engueulé en me disant, écoute, t'es gentil, mais il y, il y a 5 ans, quand on nous en a parlé, t'aurais pu me dire un peu plus sérieusement d'aller mettre quelques euros ou dollars dessus. Non, franchement, j'en sais rien. Évidemment, je fais un gros pari à la hausse, mais un pari très long terme aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Parce que ça prend. En fait, le truc, c'est que c'est comme Internet ou l'e-commerce. L'e-commerce, avant que ça se décolle comme c'est le cas aujourd'hui, enfin, il y a 10, 15 ans, ça existait déjà et personne n'achetait en ligne, en fait. Donc,
Oui, alors c'est bizarre comme environnement parce que pendant très longtemps, il ne s'est rien passé. Parce qu'il n'y avait même pas d'emploi dans le domaine, il y avait très peu de valeur, il n'y avait pas d'argent. Donc pendant très longtemps, il ne s'est rien passé. Là, tout à coup, ça s'est accéléré. Et donc, on se retrouve à avoir les vieux développeurs, entre guillemets, donc les gens qui étaient là il y a 5-6 ans, qui pour beaucoup ont trop d'argent maintenant. Donc pour la plupart, c'est des gens qui ont même arrêté de travailler. Donc ça, c'est ceux qui avaient de l'expérience. Et puis, t'en as qui s'intéressent à ce domaine-là depuis 6 mois et qui n'ont pas d'expérience. Et entre les deux, il ne s'est pas passé grand-chose. Je schématise, évidemment.
Non, mais, c'est...
mais du coup, on se retrouve avec des attentes énormes en termes d'adoption, de développement, etc. Et avec des ressources qui sont très limitées. Donc aujourd'hui, trouver un développeur qui connaît un peu la blockchain, cette technologie et les crypto-monnaies, c'est très difficile sur le marché. Donc, on a un marché de gens qui spéculent pour beaucoup, qui a énormément d'attentes. Et à la fois, on n'a pas beaucoup de ressources pour pouvoir développer. Donc, on ne sait pas trop. Enfin, je pense qu'il va y avoir un délai assez difficile à maîtriser avant que les choses deviennent réelles et que des applications vraiment en rupture puissent équiper des industries. Pour autant, comme ça se construit au-dessus d'Internet, le jour où ça va partir vraiment très vite.
Ouais, c'est ça.
Donc, je ne sais pas. Mais je fais le pari que ça va arriver assez vite. Et que quand ça va basculer, il sera trop tard pour y aller.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Cool. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Et alors, du coup, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, à qui ou à quoi tu voudrais claquer la porte aujourd'hui ?
Alors, j'aimerais claquer la porte, évidemment, aux gens qui émettent du scepticisme sur sur ce sujet, sans avoir cherché à le comprendre. Mais ça, à la rigueur, je leur claque pas tant la porte que ça, parce que moins il y a de gens qui comprennent et plus ça laisse la place à des gens comme moi pour saisir l'opportunité.
Cool, merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté Vlan, le podcast qui parle du marketing à l'ère digitale. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.